Radio.
Bonjour et bienvenue à tous sur Racket Live. Nous sommes la classe de première ESB et nous allons vous proposer une émission intitulée Racket Live. Nous voulons remercier premièrement le BTS audiovisuel de nous avoir accueillis dans ses locaux. Donc nous travaillons sur ce projet depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Marie-Noëlle Thibault, plus connue sous le nom de Dominique Manotti, pour publier ses romans. Il y a quelque chose qui nous intrigue, Madame Manotti. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser un autre nom pour publier vos romans ?
Oh, pour une raison très simple, c'est que j'ai commencé à écrire tard, à 50 ans, mais j'étais encore prof de fac et je n'avais pas du tout envie de discuter de mes romans en classe. J'avais envie de serrer les activités, l'enseignement d'un côté, les romans de l'autre. Donc j'ai pris un pseudo. Bon, bien sûr, tout le monde a su que c'était moi. Mais en même temps, jamais mes étudiants ne m'ont posé la moindre question sur mes romans. C'est-à-dire que clairement, ils ont respecté la coupure sans que je leur dise jamais qu'il fallait le faire. Ils ont très bien compris que si j'avais pris un pseudo, c'était pour ça, pour pas qu'on parle de mes romans en classe.
D'accord, Madame Monotti. Donc vous êtes donc née en 1942 à Paris. Puis vous avez été agrégée d'histoire, spécialisée dans l'histoire économique du XXe siècle. Vous avez d'abord...
Du XIXe.
Ah, on a dû faire une petite erreur. Vous avez d'abord enseigné au lycée, puis en 1968 à l'université de Vincennes où vous étiez maître de conférence. Vous étiez aussi militante politique depuis 1950, notamment dans l'Union des étudiants communistes et syndicalistes.
Alors, 1950, j'avais 8 ans. Donc on va dire plutôt 1960.
D'accord. La CFDT, qui est la Confédération française démocratique du travail, jusqu'au milieu 1980. Vous confirmez ce rapide résumé de votre parcours professionnel ?
Oui, à part la correction de l'année 50.
J'aimerais compléter, si tu me le permets, Christina, en abordant l'œuvre de Madame Manotti. Votre premier roman, qui a été publié en 1995, s'intitule « Sombre sentier » et il aborde la question des grèves et des travailleurs clandestins turcs dans le quartier du Sentier à Paris. Ce quartier, si je ne me trompe pas, c'est celui de la confection. Puis il y a eu « À nos chevaux », sorti en 1997, qui raconte les années Mitterrand avec le milieu de la drogue et des chevaux. COP est similaire, puisque l'on est dans le monde du foot et de l'argent sale. Le rêve de Madoff, lui, publié en 2013, aborde déjà la question de la finance. C'est un livre que Madame Parot, notre professeure d'SES, a prévu de nous faire lire prochainement. Votre dernier livre est intitulé quant à lui « Racket » et c'est celui que nous avons lu. Donc voici ma question. Nous avons remarqué que toutes ces œuvres portent sur des sujets sensibles et nous aimerions savoir pourquoi ce choix et d'où vous vient cette motivation.
Qu'est-ce que vous appelez un sujet sensible ?
Par exemple, l'achat d'Alstom qui est un peu...
Un sujet sensible, c'est un sujet d'actualité, c'est... Mais parce que, si vous voulez, sensible, une grande histoire d'amour entre Tristan et Iseut peut être considérée comme un sujet sensible.
Ah, mais ce qu'on voulait dire par sujet sensible, c'est par exemple la vente de General Electric à Alstom, elle a été mise sous silence pendant longtemps, et pourquoi vous avez décidé de faire le choix d'en parler ?
Alors j'ai décidé d'en parler, j'ai fait le choix d'en parler, parce que, si vous voulez, je pense que... La façon dont nos sociétés sont organisées, ça joue énormément sur nos vies. Nos vies sont des vies en société. Et nos vies en société sont conditionnées par un certain nombre de choses, comme par exemple la spéculation immobilière dans À nos chevaux, comme par exemple la spéculation immobilière à Paris, qui est aussi un des sujets d'À nos chevaux, du roman, joue énormément sur la vie des Parisiens et sur la vie des gens qui ne peuvent pas aller à Paris parce que c'est trop cher. Vous voyez, ce sont des sujets sensibles parce que ça joue sur la vie des gens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et la vente d'Alstom à General Electric va jouer énormément sur la vie de la France et des Français, parce que c'est une perte d'indépendance, si vous voulez, sur des technologies qui sont des technologies d'avenir. Par exemple, les technologies des nouvelles sources d'énergie, des sources d'énergie non polluantes, dont nous n'avons plus la maîtrise depuis la vente d'Alstom. Et ça, ça va jouer, si on veut, le changement, par exemple, sur les questions climatiques. On n'aura pas l'outil industriel derrière. Ou plus exactement, nous n'aurons pas la maîtrise sur l'outil industriel derrière. Donc, on ne pourra pas prendre des décisions efficaces. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. En même temps, je sais que c'est un sujet difficile à faire passer. Donc, je m'intéresse, si vous voulez, aux sujets dont je pense qu'ils sont extrêmement importants pour notre vie et qui sont difficiles d'abord, donc qui méritent qu'on les raconte sous une forme romanesque.
D'accord. Merci, Madame Manotti. Donc, vous êtes une femme engagée et courageuse. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces ?
Non. Alors, écoutez, on n'est pas dans un pays... on n'est pas en Arabie Saoudite, clairement. On est dans un pays où on n'assassine pas les journalistes et les romanciers. Il y a des pays européens où on assassine les journalistes. Par exemple, l'Italie, où un certain nombre de journalistes qui ont travaillé sur la mafia ont été assassinés. Donc, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et je n'ai jamais reçu de menace. Et il faut faire très attention dans un pays comme la France, où la liberté d'expression est réelle. Il faut faire attention aux mécanismes d'auto-censure. C'est-à-dire, c'est un sujet délicat, je ne l'aborde pas. Personne ne vous menace, mais vous-même, vous vous censurez. Ça, ça existe beaucoup dans notre pays. Non, je n'ai jamais reçu de menace.
D'accord, Madame Manotti, eh bien, merci pour votre réponse. Nous allons à présent passer à une petite pause musicale. Et nous allons écouter une petite chanson intitulée Ton combat du groupe Arcadien.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Le bonheur s'efface quand l'amour se casse. Quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence. Quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage. Quand tu ne vois plus le futur.
Il suffirait qu'une main touche la tienne. Que ton regard vers demain le comprenne.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat.
Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied. On mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur. Qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmène dans les coins où ça chante et ça résonne. Et personne, ne juge personne. On te reconstruira une vie. Pas à pas, tu guériras.
Il suffirait que ta main touche la mienne. Que ton regard vers demain le comprenne.
Je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends.
C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Donc, nous allons maintenant nous intéresser un peu plus au livre Racket en détail. Donc, votre livre Racket a pour but de dénoncer un scandale d'État. Et Lila va nous en dire un peu plus sur le livre Racket.
Donc, en effet, Christina, Dominique Manucci a eu le courage d'écrire ce livre Racket, auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ce roman est à la fois économique et sociologique, puisque vous nous racontez l'histoire d'une entreprise nommée Orstam, qui va être achetée par Power Energy, une entreprise américaine. Mais dans la réalité, il s'agit d'Alstom et de son rachat par General Electric. Ce livre est donc inspiré d'une histoire vraie. Grâce à votre livre, on se retrouve un peu comme dans les coulisses de cette histoire. On est comme un spectateur invisible qui suit tous les personnages et sait tout ce qu'il se passe. On vit le quotidien d'une entreprise en pleine crise. On suit la vie des personnes haut placées et en parallèle, on assiste aussi à l'enquête de police qui est menée. Bref, on ne sait plus en donner de la tête.
Merci Lila pour cette présentation. Maintenant, nous allons écouter notre chroniqueuse littéraire, Anaëlle, qui va nous résumer l'histoire.
Eh bien, Lila et Christina, je vais vous éclairer un peu en vous résumant cette aventure entre corruption, mensonge et vérité. Tout commence avec l'arrestation de Lamblin, président de la filiale chaudière d'Orstam, en déplacement aux États-Unis pour affaires. On apprendra à connaître les personnes travaillant dans cette entreprise, et elles sont nombreuses. On retiendra le PDG Carvou, un homme puissant mais fourbe, puisque c'est lui qui va aider les Américains à racheter l'entreprise, ainsi que son jeune conseiller Nicolas Barrault, le petit nouveau du métier, mais qui va vite s'adapter et s'impliquer dans cette affaire. Parallèlement, on a Noria Ghozali, commandante de police dirigeant l'enquête sur Orstam avec Riverdi et l'aîné, tous prêts pour enquêter. Ils y accordent beaucoup de temps et d'énergie. Au sein de l'entreprise, beaucoup s'interrogent et aimeraient comprendre ce qu'il se passe. Alors, Christine Dupuis, qui était la secrétaire de Lamblin, se désigne comme la porte-parole des salariés. Malheureusement, les réponses obtenues ne sont pas vraiment celles attendues et sont pour la plupart des mensonges. On ne racontera pas la fin de ce très beau roman, mais on vous incite grandement à le lire puisqu'il montre la face cachée des entreprises. Ça va, Madame Manucci, j'ai bien résumé ?
Mais oui, bien, très bien. Juste une remarque. Je ne cherche pas à dénoncer. Je cherche à raconter la façon dont ça se passe. Je la raconte. Ça se passe comme ça. C'est au lecteur de se faire son opinion à partir de ce récit. Ou bien il va trouver ça formidable. Imaginons Carlos Ghosn enfant. Il va lire ce roman et il va trouver l'histoire formidable. Il va se dire, je vais faire pareil. Bon. Ou bien il va trouver que c'est pas bien et il va essayer d'imaginer une société qui fonctionne autrement. Mais moi, l'auteur, je ne le prends pas par la main. Je ne lui dis pas ce qu'il faut penser. Dans la notion de dénonciation, il y a une notion comme si moi, l'auteur, je savais où est le bien et où est le mal, et que je vous disais, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Non, je ne le fais pas, je vous raconte. Par exemple, vous trouvez Carvou, le PDG, vous le trouvez fourbe. Il n'est pas fourbe. Il applique exactement ce qu'on appelle le secret des affaires. Et le secret des affaires est même inscrit dans la légalité, dans la loi. Il y a un an, pas plus, il y a eu une nouvelle loi pour renforcer le secret des affaires. C'est-à-dire, si le membre d'une entreprise dévoile ce qui est en train de se passer, il tombe sous le coup de la loi. Vous voyez ? Donc c'est pas une notion, il n'est pas fourbe, il est PDG et il fait son travail de PDG, c'est-à-dire qu'il organise dans le secret absolu les choix qu'il a faits. Il réalise les choix qu'il a faits dans le secret absolu. C'est une règle de fonctionnement des grandes entreprises. Vous voyez l'ampleur du problème. L'ampleur du problème, les citoyens n'ont pas accès à ce qui se passe au niveau des directions des entreprises. Et si le roman, j'ai pu l'écrire, c'est parce que l'affaire était finie. Voilà. Donc c'est pas de la fourberie, c'est comme ça que ça fonctionne.
Eh bien, merci Madame Manucci de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Nous aurions une autre question. Votre choix littéraire, c'est d'écrire plus des romans noirs ou des romans policiers ? Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît.
Alors, ce sont des romans noirs. La différence pour moi, à mes yeux, évidemment, à chaque écrivain à qui vous allez poser la question, il y aura des réponses différentes. Pour moi, la différence entre les deux, elle est très très claire. Les deux partent d'une histoire de crime. Les deux utilisent le crime comme un scalpel pour fouiller dans les tripes, dans les entrailles des sociétés. Mais pour le roman policier, le crime est une histoire individuelle. Le criminel est un individu. À la suite d'une enquête, on le démasque et il est puni. Donc c'est une littérature qui se termine toujours bien. Et c'est une littérature, on va dire, de détente, d'amusement. Bon, vous faites un peu peur, ensuite vous êtes tout à fait rassuré, le bien a triomphé, et vous vous endormez tranquille. Le roman noir raconte une autre histoire. Il raconte, si vous voulez, que le crime est un des rouages de la société. C'est pas une affaire individuelle. C'est un rouage de fonctionnement de la société. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de fin heureuse. C'est-à-dire qu'un criminel peut être sanctionné, un criminel peut disparaître, un autre prendra sa place. L'exemple le plus évident, c'est le fonctionnement des mafias. Quand une mafia est vraiment organisée, elle nomme toujours, elle élit toujours un dauphin. Et quand le patron disparaît, il est immédiatement remplacé. Et il y a même quelquefois, quand elles sont très prévoyantes, deux ou trois successions prévues. Donc vous voyez, et la mafia continue à fonctionner. La société criminelle continue à fonctionner. Le roman noir raconte ça. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de transposer cette façon de voir les choses au fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire que ce qui me frappe énormément, c'est que pour les dirigeants d'entreprise, la limite entre la légalité, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, n'existe pas. La règle, c'est de faire de l'argent par tous les moyens. Et si un moyen est illégal, il n'est pas écarté, mais on calcule le risque. Et on choisit de le faire ou de ne pas le faire en fonction du risque et de ce que ça va coûter. Alors, il y a des fois où on se trompe. Volkswagen s'est trompée sur le risque. Elle a truqué pendant des années et des années les contrôles de ses moteurs. Et finalement, aux États-Unis, ça a été dévoilé et elle risque aujourd'hui des amendes considérables. Donc elle s'est trompée sur le risque. Il y en a un autre qui s'est trompé sur le risque, c'est Bayer, qui vient de racheter Monsanto, industrie chimique allemande, rachète Monsanto qui produit du Roundup, c'est-à-dire du glyphosate. Et calcule le risque. Il se dit, personne n'osera jamais nous sanctionner là-dessus. Le glyphosate est cancérigène, tout le monde le sait, mais on n'osera pas. Et ils se sont trompés. C'est-à-dire, Monsanto, tant que c'était américain, les tribunaux américains ne se sont jamais attaqués à Monsanto. Mais du jour où c'est devenu allemand, les tribunaux américains se sont attaqués à Monsanto. Car ça devient le moyen d'éliminer Bayer. Et en deux mois, trois mois, Bayer a perdu 50% de sa valeur en bourse. Mais cette perte considérable et qui n'est pas finie, je ne vous conseille pas d'acheter aujourd'hui des actions Bayer. Donc cette perte n'est pas finie. Mais vous voyez bien que c'est une erreur dans le calcul économique. À aucun moment, les patrons de Bayer ne se sont posé la question: est-ce que le glyphosate est mauvais pour la santé? Ça, ce n'est pas un problème de dirigeant d'entreprise. Le problème, c'est en fabriquant du glyphosate, est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas? Voilà, donc c'est un mode de raisonnement de type mafieux. Et c'est ça qui m'amuse profondément, c'est de vous raconter ces histoires. Mais je ne les truque pas. Je raconte ce qui existe.
Eh bien, merci Madame Manotti de nous avoir apporté un peu plus de précision. J'aurais une dernière question à vous poser. Votre personnage, le commissaire d'Aquin, vous l'aimez beaucoup puisqu'il apparaît dans quasiment tous vos romans. Comment l'avez-vous construit ou imaginé ?
Bon, alors d'Aquin, oui, je l'aime beaucoup parce que c'est mon premier personnage. Et je ne savais pas encore si j'allais arriver à écrire un roman. J'avais prévu dans le roman d'autres personnages et finalement, c'est lui qui a pris toute la place. D'Aquin est un personnage que j'ai construit en racontant l'histoire du sentier parisien dans les années 80 que j'avais connu quand j'étais syndicaliste. Et j'avais été extrêmement frappée par l'atmosphère très particulière du sentier, très très particulière, qui est à la fois violente et chaleureuse, qui est hyper machiste et en même temps, ce sont tous, il n'y avait que des hommes hein, quand j'ai connu ce sentier, que des hommes. Toute la couture était faite par des hommes, des Turcs en très grande majorité. Et en même temps, ces hommes, si vous voulez, s'aimaient entre eux, vraiment. Il y avait une atmosphère d'amitié virile, on va dire, avec beaucoup de contacts, beaucoup de façons de se toucher, de vivre ensemble. Vivre ensemble, manger ensemble, travailler ensemble, dormir ensemble. Bon. Et à travers la construction du personnage de d'Aquin, j'ai essayé de rendre compte du sentier. J'ai essayé de donner de la chair, de faire vivre un homme qui avait toutes les caractéristiques du sentier dans son personnage. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Manotti. Chers auditeurs, maintenant que l'on a présenté le contexte, entrons dans le vif du sujet avec Alstom, présenté par d'autres camarades de la classe. Je remercie Maria, Lila et Anaël pour leurs chroniques qui ont permis d'introduire ce roman Racket. Terminons en musique.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je
je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Ma radio.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire d'Alstom. Pour commencer, Valentin nous présentera Alstom en 1928. Alors, que peux-tu nous dire à propos de cette entreprise ?
En fait, tout commence en 1928, lorsque la CACM, Société Alsacienne de Construction Mécanique, s'associe à Thomson Houston pour former Alstom. Attention, à ce moment-là, Alstom s'écrit encore avec un H. L'entreprise prend l'orthographe sous laquelle on la connaît aujourd'hui en 1998, lors de son entrée en bourse. Alstom travaille dans la construction de locomotives. L'entreprise se développe, s'améliore et crée de nouvelles locomotives toujours plus performantes. Au fait, saviez-vous qu'en 1949, elle affirme son statut de fleuron en réalisant un record de 253 km par heure. Mais Alstom sait aussi de nombreux hauts et bas. En effet, en 1999, l'entreprise est obligée de vendre son activité de turbine à gaz à l'américain General Electric. Cette opération est un sauvetage mené par M. Sarkozy. En 2004, Alstom est toujours en crise. L'État met en marche une recapitalisation en investissant 2,2 milliards d'euros. Or, la loi l'oblige à se retirer entièrement du capital de cette dernière d'ici 4 ans. C'est donc en 2006 que l'État se retire du capital d'Alstom en revendant sa part de 21,03% à Bouygues qui devient alors l'actionnaire majoritaire. Malgré tout, Alstom est une entreprise où il fait bon travailler puisque très tôt elle a mis en place un paternalisme fort. Clémence va nous expliquer de quoi il s'agit.
Oui. Il faut savoir que dès ses débuts, Alstom a souhaité que ses employés se sentent bien au sein de l'entreprise. Pour ce faire, elle a créé en 1949 le Football Club d'Alstom, ce qui permettait aux employés de tisser des liens entre les employés. Elle a aussi développé la politique d'autres sports par la suite, comme le basket, le cyclisme, les échecs, le tir à l'arc, le volley, l'athlétisme et également une harmonie musicale. Cette diversité des activités contribue à la richesse du paternalisme d'Alstom. Elle propose aussi à ses ouvriers des logements, une maternité et puis d'autres services comme l'achat de produits alimentaires à tarifs avantageux.
Madame Manotti, pensez-vous que ces actions pour les entreprises sont une bonne chose ?
Je suis historienne. Hein. Je vais vous dire deux mots sur le paternalisme. Le mot est très très important. Au 19e siècle, après la Révolution française, quand les entreprises indépendantes et libres se développent, avant vous avez des systèmes de corporations, on n'en parle pas, c'est beaucoup plus compliqué, on n'en parle pas. Les entreprises indépendantes, il n'y a pas de droit du travail. Dans une entreprise, le salarié se définit par le fait d'un rapport de subordination au patron. Comment régler ces rapports de subordination ? Au 19e, c'est très très simple. Le patron est considéré comme le père et il a sur ses employés, sur ses salariés, tous les pouvoirs du pater familias. C'est-à-dire, clairement, des pouvoirs quasi absolus, en dehors du droit de mort, qu'il n'a pas non plus sur ses enfants. Bon, donc des pouvoirs quasi absolus. Le terme de paternalisme est créé à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez deux types de patrons qui se développent à partir de la première moitié du 19e. Des patrons qui se moquent complètement de ce qui arrive à leurs salariés par ailleurs et qui utilisent leur pouvoir absolu sans contrepartie. Et d'autres patrons qui considèrent qu'il faut fidéliser la main-d'œuvre. C'est-à-dire l'amener à rester parce que le salarié, il a un droit, c'est de s'en aller, de perdre son travail et de s'en aller. Ça, il a le droit. On n'est pas en système d'esclavage. Bon. Il faut, pour beaucoup de patrons, pour un certain nombre de patrons, il faut fidéliser l'employé, l'amener à rester parce qu'il acquiert une qualification et que les patrons considèrent qu'il faut fixer cette qualification chez eux. C'est le développement du paternalisme, c'est-à-dire qu'il donne un certain nombre d'avantages, mais ce qui définit le paternalisme, c'est que ces avantages, le patron est le seul à les décider et à les gérer. Le seul. Il n'y a pas de contribution, d'intervention des salariés dans les choix et les modalités. C'est ça le paternalisme. Donc la question sur Alstom, c'est qui décide ? Qui décide de ces choix ? Qui décide de la façon de les gérer ? Qui décide de où on va passer des vacances ? C'est pourquoi, si vous voulez, à partir du XXe siècle, on a développé toute une série de mesures de droit du travail, tout un droit du travail, en particulier le droit des comités d'entreprise, pour gérer les activités culturelles, sportives, etc., des entreprises, avec la participation des élus des travailleurs. Moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau d'Alstom, mais le paternalisme, en tout cas, c'est ça. Donc, vous voyez bien la différence. Et ce terme de paternalisme renvoie à cela, c'est-à-dire au pouvoir absolu de l'employeur. Donc, a priori, je trouve très bien qu'il y ait toute une série d'œuvres sociales, mais je pose la question de qui les gère et comment.
Merci beaucoup, Madame Manotti. Écoutons maintenant un morceau de musique où il est question de travail. Sur notre radio et nous poursuivons maintenant avec Manon qui va nous parler du rachat par General Electric.
En effet, en 2014, la branche énergie d'Alstom est vendue au groupe américain General Electric, son principal rival sur le marché. Il est vendu pour une somme de 12 milliards d'euros. Avec cette transaction, la France perd une entreprise clé de son industrie, elle perd son autonomie dans le domaine important qu'est le nucléaire et donc elle se rend dépendante des États-Unis. Les États-Unis sont très forts puisqu'ils réussissent à éliminer leurs concurrents directs sur le marché. Ils obtiennent donc une place plus importante sur ce dernier grâce à des nouvelles parts de marché.
Merci Manon. Et pour finir, nous allons évoquer la venue des syndicalistes avec Noé.
Oui, nous avons reçu deux syndicalistes de l'entreprise pour avoir le point de vue des salariés sur Alstom. Nous avons eu la chance d'accueillir M. Jacques Meyer, qui a été délégué syndical chez Alstom pendant 32 ans. Il nous a parlé de son expérience et il suit toujours de très près l'évolution de l'entreprise. Il était accompagné de M. Thierrier, technicien d'Alstom, qui avait travaillé pendant 15 ans à l'étranger et qui maintenant est formateur chez General Electric. M. Thierrier a donc pu nous parler de la cohabitation avec les Américains, de l'influence de leur culture dans le fonctionnement de l'entreprise. Grâce à eux, nous savons que la vente d'Alstom a été plutôt bien accueillie à Belfort, même si maintenant certains employés le regrettent et sont déçus car les conditions de travail ont changé. Pour eux, cette vente est surtout une opération financière. C'est pourquoi, à l'évocation de cette vente, ils se sont exprimés.
Alstom s'est construit sur les grands marchés qu'on pourrait appeler captifs de la SNCF et de l'EDF. De ce point de vue-là, j'irais jusqu'à dire, mais ça c'est un point de vue qui m'est tout à fait personnel, que ce groupe industriel appartient beaucoup plus au patrimoine de la nation qu'à des investisseurs privés qui n'en ont tiré durant des décennies que les profits. Donc ce n'était pas le marché de l'électricité en tant que tel qui faisait défaut, c'était le résultat d'opérations financières et purement spéculatives.
La théorie de M. Tchuruk était la société sans usine, c'était le Fabless Factory qui a un non-sens total et qui théorise le fait que l'industrie n'a pas besoin d'usines. Les usines peuvent être en Asie, peuvent être n'importe où, hein, il y a des gens pour travailler là-bas, et nous on fait la partie noble, entre guillemets, l'engineering. Aucun pays ne prendrait la décision, par exemple, d'externaliser son agriculture. Il y a de la dépendance alimentaire. Si on vous dit, demain matin, attendez, on vend tous les champs, toutes les fermes de France, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre. Et là, on fait la même chose avec l'industrie énergétique. L'indépendance énergétique est au moins aussi importante que l'indépendance alimentaire. Chargez vos smartphones ou je ne sais quoi, mettre de la lumière, vous n'allez pas demander à un pays voisin de vous fabriquer votre électricité. Ben là, c'est ce qu'on fait, c'est même pas un voisin, c'est outre-Atlantique.
Et vous, Madame Manotti, que
pensez-vous de cette vente et de l'impuissance de l'État pour l'empêcher?
Alors écoutez, ce que je pense de la vente, d'abord, les entreprises, c'est des organismes vivants. La vente, elle n'est pas tombée du ciel un jour, et je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est simplement spéculatif. Si on a vendu Alstom, c'est parce que Alstom a fait toute une série d'erreurs très graves, et parce que l'industrie française est profondément à une faiblesse constitutive qui est la solidité de son capital, ou plus exactement la fragilité de son capital. Les erreurs, je vais passer très très vite. Mais vous avez parlé du succès après la guerre. Bon, les erreurs sont multiples. D'abord, les succès ont été importants quand il y a eu... Parce que, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des mutations technologiques, les industries sont obligées de se réadapter. Et là, il peut y avoir des erreurs. Après la guerre, il y a eu l'électrification des trains. Et là, Alstom s'est très très bien adapté. Il est entré dans un groupe qui s'appelle General CGE, Compagnie Générale d'Électricité, et il a très bien pris le virage de l'industrialisation ferroviaire. Bien. Mais la CGE, c'était aussi, et c'est à ce moment-là qu'Alstom a commencé à faire des turbines. Bon, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, c'est que CGE avait une énorme partie, c'était un très grand conglomérat, avait une énorme partie sur les communications. Bon. Deuxième transformation technologique, le portable. Et la CGE a parié sur le téléphone fixe. Erreur magistrale. Magistrale. Qui a fait éclater le groupe. À ce moment-là, Alstom s'est retrouvé tout seul. On a dissous le conglomérat, et on a choisi de faire des industries qu'on appelle pure players, c'est-à-dire chaque entreprise a une spécialité et une seule. Ce qui fait qu'elle est extrêmement fragile, parce que quand elle est dans un conglomérat, les pertes d'un côté peuvent être consolidées, rattrapées par des succès de l'autre. On peut se tromper sur quelque chose et bien faire sur autre. Mais quand Alstom s'est retrouvé tout seul, il a effectivement manqué le tournant des turbines à gaz. Et il l'a manqué en deux temps. Alors, je ne parle pas de Turuk, mais tout de suite après Turuk, le dirigeant d'Alstom s'appelait Bilger. Et Bilger était de formation énarque, pas ingénieur. Et il a racheté une entreprise anglaise qui s'appelait ABB, et qui était en situation extrêmement grave sur le plan technique. Tous les ingénieurs d'Alstom lui ont dit « ne faites pas ça ». Et il a dit « sur le papier, c'est une très belle situation et on va faire un truc formidable de finance ». Donc il l'a fait. Et c'est là que les véritables problèmes d'Alstom ont commencé. C'est là qu'il y a eu le sauvetage par Sarkozy, qui n'est pas en 95 ou 99, mais en 2004. Sarkozy en 99, il est rien du tout. C'est Jospin au pouvoir, Sarkozy il y est pas. Bon, c'est 2004 et c'est là qu'il a introduit Bouygues dans l'entreprise. Bouygues, c'est un cimentier. Son rapport à Alstom, ça ne l'intéresse pas, Alstom. Il a repêché Alstom, il est entré dans le capital à hauteur de 30%, c'est-à-dire énorme, parce qu'il pensait qu'il allait avoir toute une opération de regroupement d'Areva, d'Alstom, etc., et qu'il voulait jouer un rôle dans les centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, c'est d'énormes consommateurs de ciment. Et Bouygues avait un intérêt professionnel à entrer dans le nucléaire. Mais si on en reste aux turbines, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, à partir de son entrée, quand le rapprochement avec Areva a échoué, Bouygues n'a eu qu'une idée, c'est de vendre. Et à partir de 2006, General Electric n'a qu'une idée, c'est de racheter. Donc, à partir de 2006, l'opération General Electric commence. Et elle commence en accord avec le principal actionnaire d'Alstom. Donc vous voyez que la catastrophe finale, elle se produit parce qu'il y a toute une série de rendez-vous manqués et toute une série d'erreurs. Ça n'arrive jamais de façon hasardeuse. Ce n'est jamais le hasard. C'est le résultat d'une histoire. Et le résultat de l'histoire Alstom, c'est le résultat d'une série de rendez-vous manqués. Voilà, voilà ce que je pense. Donc, c'est un signe très clair de l'incompétence de nos grands patrons. Bilger, d'ailleurs, était un catho fervent et il a eu une réaction extraordinaire pour un patron. Il a refusé de toucher son parachute doré parce que dans l'ensemble, les grands patrons ne sont jamais sanctionnés pour leurs erreurs. Ils touchent quand même des sommes considérables. Bon, lui a refusé de la toucher. Et il est mort un an ou deux après, miné par cette histoire. Donc il s'est parfaitement rendu compte de ce qu'il avait manqué, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la gestion des entreprises. Hein. On peut se tromper ou ne pas se tromper. Donc voilà, Alstom, c'est la catastrophe Alstom et le résultat de toute une série d'erreurs antérieures.
Eh bien d'accord Madame Manotti, et nous posions la question, comment vous êtes-vous renseignée sur Alstom afin qu'Orstam lui ressemble un maximum?
Je me suis contrainte à ce que tous les faits, non pas les personnages, mais tous les faits sont des faits réels. Ça a été ma contrainte si vous voulez. Tous les faits sont des faits réels, c'est comme des cailloux sur lesquels j'ai construit mon histoire. Par contre, tous les personnages sont fictifs. Je me suis laissé libre cours de les inventer comme je le souhaitais. Mais les faits, ce qui leur arrive, est réel. Comment je me suis renseignée? Comme une historienne. C'est-à-dire, j'ai lu les journaux de toute la période, j'ai lu tous les livres qui ont été publiés sur la question, et au-delà, j'ai lu tous les rapports qui ont été écrits. Il y a de nombreux rapports qui ont été écrits sur Alstom, et qui tirait la sonnette d'alarme de très nombreux rapports. Rapports pour les différents ministères. Ces rapports, on peut se les procurer. Ils sont publics. Et puis aussi, par exemple, les commissions parlementaires, les débats des commissions parlementaires, les auditions des commissions parlementaires sont publiques. Il y a eu deux commissions parlementaires sur Alstom. On le trouve au journal officiel. Bon, le journal officiel n'est pas d'un grand tirage et consulté par un très grand nombre de gens, mais c'est public et vous le trouvez sur Internet. Et puis, la dernière source, j'ai des amis dans les anciens des services secrets qui se sont reconvertis dans ce qu'on appelle la sécurité l'intelligence économique. Voilà, l'intelligence économique, en clair, c'est l'espionnage. Point. L'intelligence économique, c'est ça. Mais ce sont des gens qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses et qui acceptent d'en parler aux romanciers plus facilement qu'aux journalistes. Parce que les conséquences sont moins évidentes. Un journaliste, c'est pour le publier dans son journal avec les vrais noms, avec pas de filtre, etc. Les romanciers, ça n'a aucune importance. Vous voyez bien, ce roman n'a aucune importance. Donc voilà mes trois sources.
Merci madame pour vos réponses. J'espère que nos auditeurs comprennent mieux vos choix à vos sujets et votre réaction à la vente de ce fleuron aux Américains. Merci à nos chroniqueurs Noé, Manon et Clémence, puis Valentin, pour cette partie dédiée à l'histoire de l'entreprise, et merci à vous, Madame Manotti. Terminons en musique avant d'aborder un autre thème qui va permettre d'expliquer les mécanismes économiques en jeu.
Bonjour à toutes et à tous. Vous pensez tout savoir de l'affaire Alstom ? Eh bien non, comme Noélie, Caroline, Océane, Chloé et moi-même, nous allons vous le montrer en questionnant bien sûr Dominique Manotti, notre invité d'honneur pour cette émission spéciale.
Grâce à la lecture de votre roman, nous avons compris par quels moyens les Américains ont pu racheter Alstom. Dans le livre, rappelons qu'Alstom correspond à Orstam et General Electric à Power Energy. Madame Manotti, dans une vidéo liée à votre roman, vous présentez les règles de la guerre commerciale américaine en la comparant au principe d'un jeu vidéo. Il nous a semblé intéressant d'illustrer ces règles pour nos auditeurs.
Exactement. Et tout d'abord, la première règle est de bien se préparer. N'est-ce pas, Chloé ?
En effet, dans le livre, l'avocate américaine Catherine McDolan et Anderson, le numéro 2 du service juridique, s'infiltrent dans l'entreprise Orstam afin de récolter des informations.
Oui, très juste, Chloé. Et dans la réalité, ces personnages existent-ils, Madame Manotti ?
Alors, les personnages eux-mêmes n'existent pas. Mais des infiltrés, bien sûr, il y en a eu. Et il y en a eu, c'est une constante de la politique américaine. Et les infiltrés, si vous voulez, il y a commencé à en avoir à partir de 2006, c'est-à-dire à partir du moment où les Américains ont décidé de racheter Alstom. Donc vous voyez, ils ont bien préparé. Et la dernière chose que je voulais vous dire sur ces questions des infiltrés, c'est que il faut pas imaginer que c'est au petit niveau, hein. On va pas infiltrer un ouvrier dans l'usine. Non, par exemple, la première infiltrée a été Clara Gaymard. Clara Gaymard, qui était une énarque très lancée dans le monde parisien, a été nommée en 2006 à la direction de General Electric Europe. Vous vous rendez compte ? C'est un énorme morceau. Elle n'a aucune connaissance sur l'industrie. Elle n'a jamais travaillé dans l'industrie. Mais elle a un réseau dans l'appareil d'État français considérable. C'est une femme d'influence. En 2006, elle est à la direction General Electric Europe. Et c'est là que les choses commencent. Donc des gens infiltrés à l'intérieur du conseil d'administration, oui, bien sûr, il y en a eu.
Caroline, tu peux nous expliquer la deuxième étape de cette guerre économique ?
Oui. Alors, la deuxième étape consiste à écarter les gêneurs. Frédéric Pierucci, cadre d'Alstom, est arrêté à l'aéroport de New York. Il est interrogé, il est emprisonné par les agents du FBI, il est accusé de corruption car il savait que son entreprise avait eu recours à des consultants pour verser des pots de vin à des députés indonésiens dans le but de gagner des marchés.
Exactement, Caroline. Dans Racket, Lamblin, un cadre d'Orstam, a été poussé par Anderson à se rendre aux États-Unis malgré la lettre du PDG qui le déconseillait.
Donc, si je comprends bien, ici le livre respecte la réalité. Écoutons cet extrait musical qui aborde la question de l'influence. Oh là là, oh là. Peux-tu reprendre et nous exposer la troisième étape ?
Dans la troisième étape, la bataille économique est engagée. Il est temps de sortir le joker. La justice américaine entre en jeu. Tout d'abord, la loi d'extraterritorialité lui a permis de découvrir des échanges de mails entre Alstom et les pays corrompus. Cette loi, propre à la justice américaine, consiste à espionner puis intervenir dans les affaires qui utilisent les serveurs américains, le dollar, les sites basés aux États-Unis comme Gmail. Ainsi, c'est grâce à cette loi que la justice américaine a découvert qu'Alstom avait signé des contrats frauduleux. Comment les Français ont appris et réagi à cette nouvelle ? Vous avez trouvé des informations au sujet, Madame Manotti ?
Alors écoutez, c'est pas exactement ça, si je peux me permettre. La loi d'extraterritorialité ne permet pas d'espionner. L'espionnage a lieu sans aucune loi. C'est simplement la guerre secrète. Et les Américains, grâce à leur maîtrise des réseaux Internet, espionnent la totalité du monde. Mais ils n'ont pas besoin de loi pour ça. Vous savez, je ne sais pas si le nom de Snowden vous dit quelque chose, mais Snowden a été un employé de la CIA qui a décidé un jour de rendre public tous ceux qui les passaient par lui. Et ça a été un scandale énorme. En 2013, il a publié ça. Il a été évidemment, il a été obligé de s'enfuir des États-Unis. Et ça a été un scandale énorme parce qu'on a découvert que, par exemple, les Américains espionnaient Madame Merkel dans ses conversations privées, sur son portable personnel. Bon, le monde entier est espionné par les Américains. Quand l'affaire judiciaire a commencé, le procureur américain avait sur son bureau 1 million de mails d'Alstom, de mails intra-internet, c'est-à-dire en principe sécurisés et limités à l'intérieur de l'entreprise, qui ne passaient pas par les réseaux. Ils sont quand même espionnés. Donc, si vous voulez, l'extraterritorialité est tout à fait autre chose. C'est une loi qui dit clairement, quand les Américains décident d'un embargo sur un pays comme l'Iran, la loi américaine donne le droit à la justice américaine de sanctionner toutes les entreprises qui violeraient cet embargo. La loi d'extraterritorialité dit « Toute transaction à l'échelle mondiale qui se fait en dollars relève de la loi américaine. » Où qu'elle soit et quels que soient les interlocuteurs dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez, il y a à peu près 87% des échanges internationaux qui se font en dollars. Donc c'est ça la loi d'extraterritorialité. La loi américaine s'applique à toutes les transactions en dollars et la loi américaine sanctionne toutes les violations d'embargo décidées par les Américains. Pas décidé par un accord entre pays, décidé par les seuls Américains. Et elle s'applique dans le monde entier. C'est ça la loi d'extraterritorialité. Alors, quelle est la réaction des Français, par exemple? Les autres, c'est la même chose. Hein. Moi, je peux vous le dire, parce que j'ai eu des discussions avec un certain nombre de gens, justement, de l'intelligence économique, et je leur ai demandé... Quand vous tombez sur un problème comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La réponse a été unanime. Quand c'est les Américains, on se couche. C'est tout. On se couche.
Je ne suis pas bricoleur. J'ai peur de planter un clou. Plutôt du genre beau parleur. J'ai un agenda de fou. J'porte un costume gris foncé, une chemise blanche bien repassée. J'ai ma voiture avec chauffeur. J'fais deux fois les 35 heures. Je suis banquier dans un grand bureau. J'lis pas Libé, vous m'avez regardé. Je lis les échos. J'suis major de ma promotion. Je vis pour mes relations. Ma femme fait de la décoration. Je tutoie les grands patrons. Je suis blackberryophile. Tous les soirs, je dîne en ville. J'ai une maison à Trouville. Je pars en hiver au Brésil. Je suis banquier dans un grand bureau. Je lis pas Libé, vous m'avez regardé. Je lis les échos.
Après avoir écouté Je suis un banquier, Océane va nous développer la quatrième étape du jeu.
En conséquence, la quatrième étape est de sortir l'arme fatale, puisqu'Alstom est en position inférieure par rapport à General Electric. La justice américaine soumet l'entreprise à une amende de 172 millions d'euros.
Exactement, Océane.
Le PDG d'Orstam annonce aux actionnaires que la situation financière est mauvaise pour leur faire accepter la vente. En cette période de crise, Alstom n'a pas les moyens de payer cette amende. General Electric lui propose d'acquérir la partie énergie de l'entreprise, c'est-à-dire 75% de l'entreprise, et en échange, l'entreprise General Electric fait croire qu'elle réglera l'amende. Crédule et pris au piège, Alstom accepte et perd la bataille. En effet, la loi américaine n'autorise pas ces entreprises à payer les amendes d'autres entreprises, mais il est trop tard quand Alstom s'en rend compte.
En effet, ce n'est pas une première pour la justice américaine car ce schéma s'est déjà produit par d'autres entreprises européennes et la plupart françaises. Depuis 2008, 26 sociétés ont réglé des pénalités de plus de 100 millions de dollars aux États-Unis. On peut noter que celle d'Alstom reste la plus grosse, mais il y a eu aussi Alcatel, Total ou encore Société Générale. On se demande alors pourquoi Alstom ne s'est pas plus méfié que ça de General Electric.
Et vous me demandez pourquoi ?
Oui.
Mais parce que le patron a eu une commission de 4 millions. Il n'y a pas que des perdants dans cette histoire. Le conseil d'administration a été maintenu dans la nouvelle entreprise qui dépend de General Electric. Et la ristourne que chaque membre du conseil d'administration touche quand il assiste à un conseil d'administration a été multiplié par 3. Et le patron a touché 4 millions. Et un certain nombre de gens qui avaient été plus ou moins infiltrés se sont retrouvés à des postes de responsabilité dans la nouvelle entreprise. Donc il n'y a pas que des perdants dans une histoire comme ça. Et la raison, elle est simple, elle est claire.
D'accord, merci.
Il y a des gens qui avaient intérêt.
Chers
il n'y a pas de morale dans le milieu des affaires. Aucune. Aucune morale. Il y a un problème qui est faire du fric. Faire du profit pour l'entreprise, faire du fric pour les patrons. C'est tout.
D'accord, merci. Chers auditeurs et auditrices, nous avons aujourd'hui tenté de vous expliquer les mécanismes du rachat d'Alstom. Nous espérons que vous êtes toujours à l'écoute. Merci à Noélie, Caroline, Océane, Chloé et Madame Manotti. L'actualité du groupe General Electric et Alstom sera présentée après l'extrait musical avec Sénad, notre dernier animateur.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey!
another one bites the dust. Hey!
Bonjour à tous, maintenant intéressons-nous à l'actualité, celle du groupe Alstom et General Electric que nous avons visité le 19 mars dernier. Kenan va nous parler de la sortie de prison de Frédéric Pirucci, la fusion impossible entre Alstom et Siemens sera présentée par Jed, puis Jibi abordera la question de l'égalité et de la place des femmes chez Alstom. Nous écouterons ensuite le reportage de Léo réalisé lors de la visite du site de General Electric, et pour finir, Samy nous parlera de l'actualité de General Electric. Alors tout d'abord, merci à vous Madame Manotti d'avoir répondu présente. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous allons terminer l'émission avec vous. Kenan va nous en dire plus sur l'affaire de Pirucci dont on a parlé récemment dans l'actualité.
Salut Sénat, tu connais Frédéric Pirucci ?
Non, je ne le connais pas vraiment.
Eh bien aujourd'hui, je vais te le faire connaître. En avril 2013, Frédéric Pirucci, cadre dirigeant chez Alstom, a été arrêté aux États-Unis pour une ancienne affaire de corruption en Indonésie datant de 2003.
Ah mais c'est Lamblin dans le livre ?
Oui exactement, c'est bien lui. Son arrestation illustre la guerre économique menée par les États-Unis contre les grandes entreprises françaises et européennes. C'est ce que vous avez voulu nous montrer dans votre roman, Madame Manotti.
Oui, absolument.
Sénat, c'est une peine de 125 ans de prison qui attendait ce père de famille. Il a plaidé coupable pour réduire sa peine. Il est resté en prison aux États-Unis pendant 2 ans, il en est sorti à l'automne 2018. L'actualité récente, c'est qu'il vient de publier un livre, Le piège américain, qui raconte son histoire. À la lecture de ce livre, on se croirait dans un thriller ou dans un roman d'espionnage, mais c'est bien et bien la réalité de la guerre économique menée par les Américains qu'il décrit. Le but du livre est de témoigner, mais aussi de dénoncer, d'alerter les dirigeants d'entreprise sur les pratiques américaines. Madame Manotti, avez-vous lu le livre et pouvez-vous nous en dire plus sur Pirucci, votre sentiment sur ce que la justice américaine lui a fait subir ?
Alors oui, bien sûr, j'ai lu le livre, évidemment. Je trouve ce livre absolument passionnant, un témoignage passionnant sur la prison aux États-Unis. Et simplement, ce que je voulais préciser, c'est que si les faits que j'ai repris, c'est-à-dire l'arrestation de Pirucci, que j'ai repris pour l'arrestation de Lamblin, est le fait réel et la façon dont ça s'est passé, il est bien évident que le personnage de Lamblin, je l'ai inventé. C'est pas celui de Pirucci, que par ailleurs je ne connais pas du tout et que je n'ai pas cherché à connaître. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Moi, je me suis posé la question, pourquoi les Américains ont arrêté cet homme-là, celui-là ? Les cadres supérieurs d'Alstom qui passent aux États-Unis, il y en a des dizaines. Pourquoi lui ? Et donc, en tant que romancière, j'ai inventé une histoire qui est celle d'antécédents de Lamblin avec des histoires de cocaïne quand il était étudiant aux États-Unis et des histoires de jeunes filles très jeunes dans son passage en Angleterre. Quand j'ai vu Pirucci à la télé, je me suis dit « ça ne doit pas être ça ». Mon interrogation reste, pourquoi les Américains l'ont choisi lui ? Mais ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez bien la différence. Le personnage de Lamblin est inventé. Ce qui lui arrive le 13 avril 2013 aux États-Unis, c'est réel. Voilà, là, on voit bien la dissociation entre le roman et la réalité.
Eh bien, merci, Madame Manotti, pour votre réponse. Eh bien, il a échappé belle, Kenan. Merci, Kenan, pour ta chronique. Dans l'actualité, il y avait aussi la fusion entre Alstom et Siemens. Jed, racontez un peu cette fusion impossible.
Merci Sénat de me donner la parole. Bonjour Madame Manotti et bonjour à tous.
je vais vous éclairer sur la fusion impossible entre Siemens et Alstom. La fusion entre Alstom et Siemens a été refusée par la Commission européenne à Bruxelles le 6 février 2019. En fait, les deux entreprises voulaient créer un géant européen du ferroviaire pour être plus performant face à la concurrence des Chinois. Mais la commissaire européenne Margrethe Vestager, élue danoise, s'y est opposée. Selon Pascal Verdeau de France Info, je cite, « La commission estime que cette fusion réduirait le nombre de fabricants en Europe, ce qui ferait monter les prix des trains et mécaniquement aussi le prix des billets. » D'après le journal Le Monde, cette décision a été perçue comme un coup dur pour les deux entreprises. Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, estime même que c'est une faute politique, car le géant chinois vend 8 fois plus que Siemens et Alstom réunis. J'ai pu lire aussi dans Les Échos que l'Europe doit réfléchir à la politique industrielle et aux principes de concurrence. Les règles européennes ne permettent donc pas toujours aux projets économiques de voir le jour. Voilà Senad, tu as tout compris ?
Oui, c'était très clair, merci Jed. Et vous, Madame Manucci, que pensez-vous de cette fusion impossible ?
Oui, la même chose que vous. C'est une conception extrêmement étriquée de la concurrence, dans la mesure où la concurrence est évidemment mondiale et que les entreprises européennes ont vraiment besoin de se défendre contre un certain nombre d'entreprises américaines ou chinoises. La seule chose qu'il faut noter, c'est que la règle en question a été fixée d'un commun accord par les États européens. Hein. D'un commun accord. Ce n'est pas une invention de la Commission européenne. C'est bien toujours le problème de la législation européenne. Elle ne sort pas de nulle part. Voilà, donc oui, il faut discuter des politiques européennes et il faut comprendre que les politiques européennes sont le résultat d'accords entre les États européens. Donc au niveau de l'État français, vous avez votre mot à dire et qui a une répercussion en Europe.
D'accord, merci Madame Manotti pour cette réponse. Maintenant, une petite pause musicale avec la musique de Relsan, Suicide Social.
Ce sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je tendrai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse, toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens, jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils te pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenu néo-nazi parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12.
seul. Il lèverait pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltringues ne supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces...
Maintenant, je passe le micro à JB qui abordera la question de l'égalité au travail chez Alstom. Je parle bien de l'égalité hommes et femmes. À toi, JB.
Bonjour Sénat, bonjour à tous. D'après le journal Libération, Alstom se bat chaque année pour instaurer l'égalité hommes-femmes, en accord avec la volonté de l'État. En effet, il existe de nombreux critères tels que l'écart de rémunération dans lequel Alstom excelle notamment, puisqu'elle obtient une note de 40 sur 40. L'objectif d'Alstom est d'augmenter la part de femmes dans les postes managériaux pour 2020. Alstom est fortement engagé auprès de l'association Elle Bouge. D'ailleurs, il y a deux professeurs de notre lycée qui sont engagés dans cette association. Tu savais ça, Sénad ? En effet, Elle Bouge donc promeut la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques ainsi que les formations techniques et d'ingénieurs. Il y a 100 marraines Alstom qui parrainent des étudiants ingénieurs. Avoir des femmes ingénieurs passe aussi par la formation. C'est une priorité d'Alstom.
Merci JB pour ta réponse. Écoutons maintenant le reportage de Léo effectué chez General Electric lors de notre visite du 19 mars dernier.
Nous avons effectivement pu visiter l'entreprise General Electric. Nous avons été accueillis par la responsable communication. C'est sa voix que l'on entend. Elle nous raconte l'histoire de General Electric.
Ici, il y a déjà 40 000 personnes, quoi, donc c'est énorme. Ça a été une implantation par stratégie d'acquisition. C'est-à-dire que General Electric en France a acheté des entreprises, et souvent des entreprises florissantes.
Nous circulons dans les locaux de General Electric. Ça ressemble vachement à ceux de chez Peugeot. Les bâtiments sont vraiment grands.
Ah, nous sommes à l'intérieur de l'entreprise. Voici le bruit que font certaines machines. Et l'horaire de fin de journée a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit et de personnel.
Merci pour ce reportage, Léo. Samy, qu'as-tu lu dans la presse sur General Electric récemment ?
Merci, Sénat, de me laisser la parole. Bonjour à vous, Dominique Manucci. Bonjour à vous, chers auditeurs. La question de l'état de santé de General Electric se pose aujourd'hui. D'après France Bleu, General Electric a annoncé des pertes records au troisième trimestre 2018. Un nouveau PDG, Lawrence Cupp, a été annoncé aux États-Unis. GE a décidé de renoncer à la création des 1000 emplois prévus en France, alors que c'était son engagement lors du rachat d'Alstom. Certains économistes craignent que le groupe décide même de licencier en France. C'est déjà prévu à Belfort, après un accord signé le lundi 25 mars à Paris entre la direction et les syndicats. 180 postes vont disparaître à Belfort, au sein de la division Alstom Power Systems, qui fabrique les turbines à vapeur. L'actualité n'est donc pas très gaie pour la région belfortaine et les employés de GE.
Alors merci Samy pour ta revue de presse. Maintenant écoutons Secret Connection, on pense tous à la monnaie.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie monnaie. Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie monnaie.
Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Comment veux-tu que je me taise? Y'a que du béton, des murs de ciment, peu de sentiments. On vit à plein dans peu de centimètres. Mais comment s'en tirer sans séquelles et surtout sans mal? La vie c'est cher et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine, de belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie monnaie car y'a trop de gens qui en manquent. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y'a trop de belles choses autour de nous qui nous appâtent. On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans pas date. Tous dans l'attente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette ou athlète.
Tu peux pas le nier. Regarde par la fenêtre, trop court tous pour la monnaie. Illicite ou honnête, chacun son approche face au billet. Ici on se situe à la tâche même, 10 à la race, à 12 piges, suivi pour voir la rage. Ils demandent d'où nous provient la rage. On veut le cash, mec. Le truc qui rachète toi et tes flics, mais où tu le caches, merde. C'est la cata, ils veulent nous voir plus pas tête. On se gratte comme des crétins, mais ça colle pas notre caractère. On a la patate, les crocs et les bagages. Au micro, on se propage, balade sur de véritables thèmes. On se propose tel quel, nous, nos dégaines d'arnaqueurs. On veut la monnaie, monnaie, on sort des couplets de braqueurs.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie, monnaie. Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui, au bonheur, ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais.
L'argent appelle l'argent, les gens sont odieux quand t'es fauché. La dégaine peut soigner le regard lointain, l'air effarouché. Sur les pieds j'ai louché, plutôt que me toucher, me gratter le cul. Je me suis dit Mourad faut leur tomber dessus. Et ce sens est suçant courbette, rester digne, fier. Même si pour se préserver faut croiser le fer, je préfère éviter les compromis qui ne sont pas mon avantage. L'appétit grandit comme quand on prend de l'âge. On passe pour des sauvages, on a faim. Sûr qu'on veut notre part du butin avant la fin. Pas avoir à justifier sur nos agissements aux poches. Je veux que dans la rue de jolies jeunes filles m'accostent.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous monnaie, monnaie.
Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais.
Tout ce qu'on a aujourd'hui c'est léger, ça tu le sais déjà. On rêve de peser lourd comme des PDG.
Monnaie, monnaie,
tous les gens sont pour. Nous on veut se plaire sur cette terre et un jour faire son tour. Quel abruti a dit qu'on fait le bonheur avec des clopinettes. Que pour que nos vies roulent, on doit se procurer des trottinettes. L'argent c'est essentiel, dur d'en avoir c'est officiel. Nous on serait tous dehors avec des sacs s'ils tombaient du ciel. Sans pognon ils veulent qu'on aille où. Y'a ceux qui bossent pas. Soit t'es flic ou soit t'es voyou. J'ai rarement su contrôler les tentations. Chacun son gagne pas, chacun s'épanouit à sa façon.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous monnaie, monnaie.
Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais.
Ouais.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous monnaie, monnaie.
Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. De Paris,
on pense tous monnaie, monnaie.
Jusqu'à Marseille,
on pense tous monnaie, monnaie.
Dans toutes les banlieues,
on pense tous monnaie, monnaie.
Et à Best Bar,
on pense tous monnaie, monnaie.
Ma radio.
Merci cher chroniqueur pour cette revue de presse très complète. Madame Monucci, pensez-vous qu'Alstom et General Electric sont des entreprises en forme aujourd'hui? Que risque Alstom, notre fleuron industriel franc-comtois?
Il risque la catastrophe. Je voulais juste dire que la promesse de créer 1000 emplois est une promesse extraordinairement habituelle dans les cas de ce type de rachat d'entreprise, pour obtenir l'accord du gouvernement et pour obtenir l'accord des salariés. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est que ça marche. Ça continue à marcher alors que ce n'est jamais respecté. Il n'y a pas d'exemple où c'est respecté. Donc c'est quand même une... Bon, c'est un truc de communicant, et c'est un truc de communicant qui marche très bien. À vous de réfléchir à la raison pour laquelle ça continue à marcher. Bon, moi je crois que la situation est très compliquée et très difficile. Je crois que General Electric a envisagé de liquider son secteur énergie.
Merci pour cette réponse. Nous allons donc conclure avec cette émission. Je remercie tous les élèves de la classe qui se sont impliqués dans le projet. D'ailleurs, je peux profiter pour poser une petite question à notre professeure de SES, Madame Parot. Comment vous est venue l'idée de ce projet pour notre classe ?
Eh bien, je m'attendais à cette question, Sénade. Vois-tu, ce projet a vu le jour grâce à une proposition de notre documentaliste, Madame Katé, dès l'apparition du roman « Raquette » au printemps 2018. À ce moment-là, nous avons rencontré Dominique Manotti dans une librairie Bellefontaine et elle a tout de suite accepté de nous suivre dans ce projet. Il a donc mûri pendant un an avant de se concrétiser aujourd'hui à travers cette émission de radio. Et comme tu as pu le remarquer, Sénade, ce roman nous a accompagnés dans tous les chapitres du programme. Début septembre, nous avons débuté le travail avec une exposition intitulée « Trois siècles d'histoire industrielle dans le territoire de Belfort ». C'était une exposition proposée par les archives départementales du territoire. Je tiens aujourd'hui à remercier Madame Katé, qui a fourni un travail considérable pour nous faire vivre cette belle aventure. Je remercie bien évidemment tous les élèves qui se sont investis dans la durée. Je remercie le BTS audiovisuel pour la réalisation de l'émission. Et bien entendu, je vous remercie, Madame Manouti, pour votre rencontre d'aujourd'hui et vous félicite pour votre remarquable travail d'investigation qui nous apporte un éclairage économique essentiel à travers vos romans. J'espère, Madame Manouti, que vous allez continuer sur cette lancée et je vous pose donc une dernière question à ce sujet. Avez-vous un roman en préparation ?
Oui, j'ai un roman en préparation sur un épisode de 1973 qui est une ratonnade à Marseille.
Bien.
Je travaille là-dessus.
Merci.
C'est un virage dans la politique d'immigration en France.
D'accord. Et avez-vous un mot à ajouter pour le travail des élèves ?
Ah ben j'ai un mot à ajouter qui est que je vous remercie tous. Et j'étais très contente de venir et bravo pour cette émission. Merci.
Merci à vous. Nous attendons avec impatience la parution de votre prochain roman, n'est-ce pas les élèves ?
Bien évidemment, mais pour ce qui est de l'instant présent, Madame Parot, j'espère que vous êtes fière de notre travail. Merci à tous les chroniqueurs et plus spécialement Naïm, qui a secondé par Lucas, qui a géré les musiques pour cette émission Racket Live. Merci à vous chers auditeurs et gardez bien les yeux ouverts. Salut.
Un jour mon fils m'a demandé si j'étais riche. C'est à l'école qu'on lui a dit, il avait pas compris si c'était de la chance. La vie n'est pas rose, donc comment expliquer les causes? On ne connaît que le prix des choses, on ignore la valeur des gens. Moi je suis pas trop bavard, bien plus généreux qu'avare. Et tant pis si la gauche caviar me condamne et me dévisage. Je sais que ça dérange les croyances et les légendes. L'argent ne change pas les gens, ils ne révèlent que leur vrai visage. Alors j'essaie toujours de dédicacer tous les bouts qui vont éclater. Tous les braves qu'on tente d'écarter, tous les gars des terres d'écarter. Je vais pas claquer les bras ballants, je vais pas jacter comme une balance. Faire du chiffre et tenir ta langue, faire du bif avec mon talent. Plus je te connais, plus je te promets. Plus de monnaie, plus de problèmes, plus de molaires, plus de colère, plus de collègues, plus de commères, plus de bordel pour les impôts, plus de vices à payer plein pour vivre vite et mourir bientôt ex-pauvre avec des rêves genre quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent, remettre la lumière dans ma maison d'enfance, quelques billets pour recaver en cas de malchance, ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent. Trop longtemps boycotté, je connais les mauvais côtés de cette putain de pauvreté entre rêve et déception. Comme Taipan peut le dire, c'est vrai que j'aime pas les riches, mais j'attends de le devenir pour pouvoir faire une exception. On fait du commercial pour pas que nos familles chialent, car votre ascenseur social nous verrouille et nous malmène. Il faut que je me sauve, y'a du mépris sur ma peau. Je ne peux pas aider les pauvres si je reste pauvre moi-même. Pendant que toute ta tête est dans la télé, toutes tes têtes se sont emmêlées. Comment respecter les délais des putains de crédits de fêlé? Dès le temps m'a de lever pour s'empêtrer dans le métro, traficoté dans le ghetto, quête les condés dans le rétro. Putain d'attitude de dandy, des tons à des gaines de bandit. Toutes les bouteilles que tu brandis, tout ton compte en banque a grandi. Braquer les boutiques de Paris, t'appelles des tours en Italie. Tous les protocoles me valident, ex-pauvre avec des rêves genre quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent, remettre la lumière dans ma maison d'enfance, quelques billets pour recaver en cas de malchance, ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent.
Je vais vous dire ce que j'ai appris à aimer avec le cash. Les billets de banque, je peux les poser devant moi, les empiler sur la table, faire des briques avec, les compter et les recompter encore. Je peux les contempler. Je peux me payer des bolides, des bijoux, des palaces, du pouvoir. Tout ce qui me fait envie dans cette vie. J'ai passé l'âge d'être payé en bon sentiment.
Moi aussi, j'ai commencé tout en bas. Je peux me mettre à votre place.
Vous ne savez absolument rien de ce que c'est que d'être à ma place et de grandir dans ma peau. Quand vous osez dire que vous avez commencé tout en bas, vous êtes à des années-lumière de la réalité de gens comme moi.
C'était juste une marque de respect pour votre parcours et je ne vous...
J'encule profondément votre respect.
Quitter le ghetto définitivement. Enterrer tous les gens qu'on aime dignement. Réaliser ses projets les plus téméraires. Prendre l'avion plus souvent que le RER. Majeur en l'air pour mes ex-patrons qui m'offensent. Remettre la lumière dans ma maison d'enfance. Quelques billets pour recaver en cas de malchance. Ça ne suffit pas à faire un homme avoir de l'argent.
Ma radio.